entre du Mouchma et au Kassai oriental. J'ai refusé totalement cette
histoire. Moi, j'ai fait une diplomatie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, statuts de mépris vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine des débats citoyens. Dans la nuit de vendredi 17 octobre, des présumés rebelles ougandais des ADF Nalu ont tué 24 personnes à Iringeti, dans les territoires de Beni Boutembo, selon les autorités locales. Des voix se sont élevées de tous les bords politiques pour condamner cette tuerie. Selon Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, les rebelles ont profité de l'éloignement de certaines villes pour opérer dans cette partie du pays. Cette affaire relance donc les débats sur la résurgence de l'insécurité et le manque d'autorité de l'État à certains endroits à travers le pays. Quelle est votre réaction? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocafi.net pour participer en direct. Vous pouvez nous appeler au 081 890 6315 ou encore au 081 890 4969. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Noël Mokondo est à la technique, Fesajili Bongonda est à la réalisation, Gilles Lugembo est au micro et coordonne ses programmes sous la supervision de Ben Kabamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons dans ce studio professeur Bobo Akalala, qui est analyste politique, pour au fait orienter les points de vue des uns et des autres qui pourront intervenir d'un moment à l'autre. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, en tout cas, bienvenue à vous tous dans ce débat citoyen. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors, on sait tout de même que l'année dernière, avec l'action conjuguée FRDC-MONUSCO, on a pu quand même maîtriser certains groupes armés actifs dans l'est du pays, sauf quelques poches des résistances, au fait, qui continuaient. Mais on a semblé vraiment tendre vers l'instauration d'un état des droits et aussi l'imposition de l'autorité de l'État dans certaines parties du pays qui souffraient de ces choses. Mais alors, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une certaine résurgence, c'est comme si nous sommes encore un pays fragile.
Je crois que la grande difficulté d'un État aussi vaste que la RDC, c'est de contrôler l'ensemble de ses frontières, et ça, c'est pas toujours évident. Alors, quand on a des frontières naturelles, comme c'est le cas au nord avec l'Ouganda, c'est très facile que le malfaiteur d'un territoire aille sur un autre territoire et commette des gaffes et se retirer. Ça, c'est le risque que tout État avec des frontières comme les nôtres court. Mais l'effort est toujours à fournir pour sécuriser la population, parce que la police nationale congolaise est là pour cela. C'est sa mission première de sécuriser les personnes et leurs biens. Nous avons aussi des partenaires qui nous aident, notamment la MONUSCO, qui nous viennent en aide ou qui vient aider le gouvernement congolais à remplir cette mission-là. Et donc, je pense que ce qui est arrivé, c'est quelque chose qui peut arriver, mais que l'on doit combattre rapidement pour sécuriser la population congolaise et envoyer des signaux afin que les peuples congolais soient rassurés, soient tranquilles, soient vivent dans la quiétude.
Alors, n'est-ce pas là un signal fort qui constitue d'ailleurs une façon pour les présumés rebelles de défier et la MONUSCO et le gouvernement congolais?
Bon,
déjà vivre dans une certaine victoire.
Non, bon, disons victoire peut-être pas, mais ce sont des malfaiteurs qui vivent de ce genre de coups et qui parfois viennent voler les biens de la population et s'enfuir avec ces biens-là. Et donc, dans ce sens-là, tant qu'il y aura toujours la possibilité pour des gens en armes d'être incontrôlés sur nos territoires, chez nous en RDC ou chez nos voisins, ces risques-là restent permanents et que les forces armées ainsi que la police nationale congolaise doivent traquer ces genres de malfaiteurs pour rassurer la population.
Malgré les appels, de la MONUSCO demandant aux groupes armés actifs, en tout cas qui restent encore des poches des résistants, de pouvoir se rendre. Voilà, donc c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est quand même un défi.
Mais vous savez, JR, lorsque vous vivez, vous n'avez pas d'autres moyens de survivre. Et vous avez pendant longtemps appris à vivre de votre arme et que vous disposez de ces armes, de cette arme-là sans être sous le contrôle d'une autorité légale qui a des comptes à rendre à la population. Je crois que vous serez toujours tenté de le faire, à moins qu'on vous présente d'autres alternatives pour vous reconvertir en autre chose. Sinon, chaque fois que vous manquez d'argent, vous serez toujours tenté de le faire. Nous le voyons même dans nos villes aussi, dans les grandes villes. Vous avez des personnes armées qui font des coups, qui insécurisent les gens, qui tuent d'autres. Donc ce qui arrive au niveau de l'intérieur, au niveau des populations transfrontalières, je crois que ce sont des choses qui arrivent, mais qu'on doit combattre.
Mmh. Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai, parce que comme on l'a dit, ça relance quand même le débat sur l'imposition de l'autorité de l'État. Après des multiples guerres, à travers cette vaste partie du pays. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'État a difficile à imposer son autorité dans cette partie du pays?
Bon, pour le moment, on ne peut pas aller jusqu'à dire que l'autorité de l'État n'y est pas. Là-bas, nous avons quand même des autorités politico-administratives qui répondent aux ordres de Kinshasa. Et donc, dans ce sens-là, l'autorité de l'État existe, est établie sur l'ensemble de notre territoire national. Mais nous avons toujours le problème du nombre de policiers qui doivent sécuriser
les militaires,
exactement. Et il est difficile quand même pour...
Le gouverneur Julien Paluku, en passant, l'a reconnu en disant qu'il y a certains endroits qui sont très éloignés et en fait les militaires, tout comme les policiers, ne sont pas opérationnels et ces rebelles en profitent.
Non seulement...
Donc c'est le cas de rappeler, en tout cas, de faire un plaidoyer fort pour que le ministère de la Défense puisse prendre cette question à cœur.
Bon, là, je pense que c'est surtout la police nationale congolaise. Hein. C'est la police nationale congolaise qui a la charge de sécuriser les personnes et de leurs biens. Sauf en cas de force majeure, ils peuvent faire appel à l'armée.
Mm-hmm.
Mais sinon, de manière normale, c'est la police qui a cette mission.
Le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est de l'état d'actualité, on implique ces deux ministères, le ministère de l'Intérieur, parce qu'il s'agit là d'une question quand même transversale.
Exactement. Donc ça, c'est une question qui nécessite que l'État augmente encore les effectifs dans la police et que les policiers soient suffisamment équipés. Parce que parfois à l'intérieur, vous avez dans certains coins des policiers qui ne sont pas suffisamment équipés pour affronter des bandes armées qui viennent avec de telles déterminations, qui sont d'ailleurs souvent constituées des anciens militaires ou des anciens miliciens qui ont été entraînés à manier l'arme correctement. Et donc, lorsque ces genres de personnes viennent créer la terreur dans un milieu, c'est difficile de les maîtriser si, en face d'eux, il n'y a pas de personnes aussi bien entraînées, bien formées pour affronter ces genres de personnes.
Alors, dans le cas d'espèce, est-ce que la province peut se partager cette responsabilité, en tout cas de sécuriser la population avec le pouvoir central, par exemple, parce que si nous lisons la Constitution, dans son article 201, il est clairement dit que la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la Constitution. Est-ce qu'à ce niveau, c'est vrai, on parle de la décentralisation, ce n'est pas encore mis en œuvre, mais déjà, dans l'esprit de la lettre de la Constitution, le pouvoir provincial peut aussi s'organiser pour sécuriser d'une manière en attendant qu'une action de grande envergure provienne du gouvernement central.
Oui, oui, mais en cette matière-là, c'est le gouvernement central qui a la responsabilité des...
Le domaine sécuritaire, c'est le domaine, voilà.
Et donc, c'est la police nationale congolaise est une. Nous n'avons pas encore de police qui dépendent soit des provinces, soit des entités territoriales décentralisées. Donc c'est qu'une police nationale congolaise qui répond aux ordres de Kinshasa. mais l'autorité provinciale, en général, qui a avec lui un comité de sécurité au niveau provincial, travaille en harmonie avec ses collaborateurs, notamment le commandant de région militaire et le commissaire provincial de la police, qui sont à son service, qui sont là pour l'appuyer du point de vue de leur mission de sécuriser la population et leurs biens.
Voilà, alors on va lire quelques messages et puis le professeur, vous allez réagir, parce qu'il y a Nicolas Nienga de Katanga, dit ceci: je condamne avec force cette tuerie d'Adef Nalu sur les innocents peuples congolais. Une question qu'on doit se poser est que quand ces rebelles criminels d'Adef Nalu opèrent sur le sol congolais, où est notre armée, donc les FARDC qui font la patrouille et les drones qui devaient être installés sur cette partie de la RDC, où sont-ils? Alors pourquoi ne sont-ils pas opérationnels? Je pense que si notre gouvernement de la RDC ne fait pas attention et ne cherche pas des solutions, l'est de notre pays sera inhabité, car personne n'aime la guerre, les gens iront où c'est calme. Alors je demande au gouvernement de faire des enquêtes sérieuses sur cette affaire, et au ministre de la Défense, si jamais la question n'est pas élucidée, que chacun tire ça, disons, la responsabilité. Donc, elle assume la responsabilité, donc Nicolas voulait dire. Alors, Joël L. Pistero Daga, de la cité frontière de Kassindi, en territoire de Béni, je pense que nous pouvons aujourd'hui condamner le gouvernement parce qu'il a failli à sa mission, celle de sécuriser la population, et c'est bien, mais ce que nous pouvons comprendre est qu'au-delà de l'incompétence prouvée par les agents de la sécurité, il y a aussi une forte trahison au sein de notre armée. Voilà. Alors, professeur, on parle de la trahison, et on parle également de l'autre côté des enquêtes sérieuses qui doivent être menées pour au fait que le responsable puisse répondre de leurs actes devant la justice.
Bon, je ne sais pas s'il faut directement, dans un cas de malfaiteur comme ce rebelle-là, parler directement de la trahison de notre armée. Je pense qu'il s'agit de défis que l'armée nationale, l'armée congolaise doit relever. Donc, notre armée doit veiller à ce que nos frontières soient sécurisées. Ça rassure la population, et c'est dans ces conditions seulement que nous pouvons dire que la paix est retrouvée sur l'ensemble du territoire national. Mais parler directement des trahisons dans les cas de malfaiteurs de ces gens, je crois qu'ils sont toujours traqués par l'armée, mais ils les opèrent favorisés par l'étendue de nos frontières qui sont difficiles à contrôler. Et donc, il est aussi difficile que l'armée laisse des personnes, des unités comme ça un peu partout. Et si les services de renseignement pouvaient donner des informations sur des cas pareils, à ce moment-là, ça pourrait aussi aider les services publics, notamment l'armée, la police nationale congolaise, de se positionner pour traquer ces gens de malfaiteurs. Mais ils viennent aussi à l'improviste.
Mais parce que ce qui est plus grave, tout le monde, en tout cas, des voix se sont levées. Ensemble, on a dénoncé ce genre d'actes. Mais tout le monde aussi a constaté qu'il s'agit là vraiment d'un cas de tuerie. 24 morts, et c'est quand même énorme.
Exact. Même s'il y avait seulement un seul mort, ça serait déjà sérieux. Mais ici, à 24 personnes, c'est beaucoup trop. Surtout qu'il s'agit des innocents, des gens qui ont droit aussi à la sécurité. Dans ce sens-là, on ne peut que déplorer, et on ne peut que recommander à ce que le gouvernement dote notre force, disons notre police, des moyens, des équipements pour pouvoir affronter ces genres de situations. Mais ce sont des situations qu'on ne peut pas contrôler à 100%, mais nous invitons quand même des unités de police, et il y a aussi nos FARDC qui sont de ces côtés-là, qui doivent essayer d'éliminer ces gens de malfaiteurs.
081-893-15 pour votre intervention directe. Vous pouvez également poster vos commentaires sur notre page Facebook, et aussi nous appeler si vous le voulez au 081-890-4969.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Ils sont nombreux à avoir envoyé des messages sur notre page Facebook. Nous allons découvrir encore d'autres messages, professeur, avant peut-être de passer au standard et permettre aux auditeurs de réagir, parce qu'il s'agit là d'une question, une thématique qui intéresse en tout cas beaucoup de gens. Et nous avons quand même reçu aussi quelques remarques par rapport à tous ceux qui envoient des messages sur notre page Facebook. Alors Norbert Kalunga, Kangourou, Décalémi, dit ceci, l'histoire de Adès Nalou nous ramène à dire que notre pays manque de défense. À quoi bon d'avoir le ministère de la Défense qui ne fait absolument rien? Nos compatriotes tués à Béni, vraiment, c'est regrettable pour nous. Le RD Congo est uni et indivisible. Le Nord Kivu est une province en proie. Quelle abomination et quelle atrocité. Innocent Arma Kondoli dit ceci, la défense du pays est dévolue à l'armée. Aussi longtemps que les FRDC n'ont pas le contrôle de toutes les provinces, ces tueries ne cesseront pas. Et quel est le rôle de l'antenne du service des renseignements militaires qui n'a pas pu prévenir cet incident? Aimé Kiaïsiré de Boutembo, je pense bien qu'on ne peut pas accuser seulement les Adès Nalou. Il faut aussi qu'on puisse mener des enquêtes sans parti pris et on trouvera la vérité qui se cache. L'utilisation des armes blanches est plus que génocidaire. Avec nos autorités, il semble que cette fois-ci, les enquêtes seront prises en rigueur, avec la loi. Mais n'oubliez pas aussi la ville de Boutembo, nous sommes menacés par les traques des rebelles. Professeur, réaction.
Je pense que l'indignation est tout à fait normale. Vous savez que on vient de tuer de 24 innocents. Un tel geste mérite d'être corrigé par les services publics. Donc on ne peut pas laisser impuni un groupe qui vient commettre ce genre d'atrocité. Et donc, je pense qu'au niveau des autorités, on a besoin de réagir de manière ferme pour pouvoir donner quand même un signal auprès de la population. Mmh. Vous savez, quelqu'un peut toujours faire quelque chose comme celle-ci, mais laisser impuni ces genres d'actes, c'est ça qui peut être dangereux, qui peut aussi ouvrir la porte à ce que d'autres soient tentés de faire la même chose. D'autant plus qu'il s'agit de tueries gratuites, comme dans ces cas-là. Donc, c'est des gens qui sont venus avec l'intention aussi de tuer, pas seulement de voler des biens, mais de tuer. Et donc, lorsqu'on tue des gens dans ces conditions-là, je crois qu'au niveau de notre force, de notre police nationale, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à poursuivre pour identifier ces gens et les châtier.
Alors, vous êtes analyste, professeur, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'actualité, il y a des noms qui sont cités, nous n'allons pas y revenir, parce que c'est vrai, on ne va pas faire des jugements de valeur ici, il y a des noms qui sont cités, des Congolais qui seraient, en tout cas, conditionnels, impliqués dans cette affaire, ou qui auraient pu commanditer ces actes. Alors, l'analyse, si cela s'avérait vrai, il s'agit là donc d'une trahison.
Non, il s'agit d'actes criminels, non? Ce sont les actes criminels et il y a la police qui est là pour ça, qui va livrer ces genres de personnes à la justice. C'est cela la notion d'impunité lorsqu'on parle de l'impunité. C'est justement pour des cas pareils, des gens qui se lèvent un matin, qui décident de tuer quelqu'un gratuitement, sans un motif valable, et on tue un innocent, et puis l'affaire s'arrête là. Mais lorsqu'il y a la police qui fait les enquêtes, on traque ces gens de malfaiteurs, et qu'après, on met la main sur la bande, et que cette bande est corrigée, est châtiée, jetée en prison, ou jugée publiquement, etc., je crois que ça peut décourager les autres. Mmh. Hein, donc, c'est l'impunité qu'il faut condamner dans ces cas-là. Ça veut dire que nos services de renseignement doivent se mettre au travail pour pouvoir mettre la main sur une telle bande. La police a aussi ses services de renseignement. Nous avons l'armée qui a aussi ses services de renseignement. Ce sont des gens armés qui viennent causer ce genre de dégâts. Et donc tous ces services, s'ils se mettent à traquer ces bandes armées qui sont localisées dans une zone bien déterminée, à mon avis, il y a moyen de trouver quand même des renseignements fiables et de traquer ce genre de personnes. Mais en tout cas, on ne peut pas imaginer qu'après ce genre d'atrocités, n'est-ce pas, au niveau des services de l'État, on reste indifférent. Ça, c'est, je ne crois pas.
Parmi les voix qui se sont levées pour condamner cet acte, il y a notamment des jeunes de Béni, que nous avons tous suivi l'actualité, qui se sont attaqués directement à la MONUSCO pour dire, bon voilà, pour manifester leur ras-le-bol. Juste après, le gouverneur de la province est monté au créneau pour condamner ces actes posés par les jeunes en leur demandant de ne pas confondre la cible. Alors, comment vous commentez cela?
Non, je crois que ça, c'est l'amalgame. C'est l'amalgame. Lorsque nous vivons dans notre pays, nous avons notre État qui est souverain, donc l'État des services qui doivent sécuriser les personnes et leurs biens, c'est la police d'abord. Et la MONUSCO, ce sont, je crois, des forces qui viennent en appui à l'État congolais. Et donc, prendre la MONUSCO au premier plan comme responsable du fait de n'avoir pas empêché cela, à mon avis, c'est aussi une confusion simplement dans les chefs de nos jeunes. Parce que parfois, les jeunes ne savent pas très bien qui a la charge première de telle mission.
Et il n'y a pas là une manipulation des politiques.
C'est possible aussi, hein. Vous savez, parfois on pense toujours que les jeunes sont manipulés, mais les jeunes peuvent aussi réagir simplement spontanément, de manière excessive, et c'est question que le responsable puisse les inviter à plus de responsabilités, et c'est de cette manière que la jeunesse aussi apprend.
Et c'est ce qui a fait le gouverneur du Nord Kivu, en indiquant, bien sûr, disons aux jeunes qu'il s'agit là d'un partenaire sûr qui travaille pour l'intérêt commun, mais il ne faut pas confondre la cible.
Voilà.
On cherche un bouc émissaire.
Non, exactement. Ça veut dire que tout cela aussi, parfois, nos jeunes ou certains Congolais ne savent pas très bien. Donc, on peut le comprendre. Mais, à mon avis, il est question d'ouvrir le dialogue. Parfois aussi, la MONUSCO fait des sensibilisations pour montrer son travail, les émissions qui passent régulièrement. C'est aussi pour montrer la contribution de la MONUSCO à la paix, à la consolidation de la paix dans notre pays. Et ce rôle-là est un rôle crucial et bien salué. Même s'il y a des cas pareils, c'est parfois des cas d'incompréhension qu'on peut bien...
081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous allons accueillir le premier auditeur qui est en ligne, Franklin, est à Bukavu. Franklin, bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Bonjour à notre invité. Visiblement, la ligne n'est pas bonne, mais je vais essayer un peu de parler. D'abord, mes condoléances à tous mes compatriotes congolais, et particulièrement à ceux qui, biologiquement, ont perdu les nerfs dans ces massacres-là. Je présente vraiment mes sincères condoléances. Oui, la lecture à faire, c'est qu'il y a des efforts militaires qui doivent être notés, mais la difficulté, c'est la stabilisation et l'imposition durable de l'autorité de l'État qui pose problème.
Oui, on suit, Franca. Si vous pouvez peut-être bouger un tout petit peu et changer un peu de côté.
Oui, je disais qu'il y a des efforts qui doivent être notés de la part des nos militaires, mais quelque part, c'est l'imposition et la stabilisation qui posent problème. Parce qu'on a noté un peu les victoires que notre armée a enregistrées. Je dénonce que ces victoires-là ont été rendues folles les autorités et notre armée, à tel point que ces autorités et cette armée se sont un peu lancées dans une sorte de distraction, et ils ont laissé un peu les champs libres aux forces négatives pour opérer librement. Moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont enregistrés, mais qui n'ont pas été vraiment bien conservés par les forces qui ont la charge dans la protection des citoyens. Avant de faire quelques propositions que j'ai à ce jour, j'ai une seule question. Est-ce que réellement notre invité peut nous aider? Est-ce que vous êtes convaincu que ce sont seulement les ADF tels qu'on est en train de les dire qui sont en train de mener ces massacres et ces tueries à Beni? Parce que de la manière dont ces tueries se suivent jour les jours, il y a un peu de mains noires dans cette situation-là. Il faut donc arriver à éclaircir cette situation et que des responsabilités soient établies, parce que c'est anormal qu'il y ait tous ces morts-là, parce que des responsabilités soient établies. Où étaient les services de sécurité pendant que les gens étaient en train de se faire tuer comme ça? Deuxièmement, moi je pense qu'il faut mettre fin à ces amnisties qu'on est en train d'accorder. Déjà, les responsabilités sont établies, mais après, ceux qui sont responsables sont encore amnistiés. Quelque chose de ces amnisties répétitives encourage tous les malfaiteurs à commettre leurs crimes parce qu'ils savent que demain ou après demain, ils seront encore amnistiés. Moi, je pense que la justice doit arriver à faire son travail. Forcément, et après, c'est par là que je vais terminer notre diplomatie. Nous avons une diplomatie qui semble être suite vraiment les dictats de la communauté internationale. Moi, je pense que nous devons avoir une diplomatie qui agit, une diplomatie qui influence, qui persuade aussi la communauté internationale à obliger aux pays voisins, dont ces massacres, les ADF, les êtres de l'air sont originaires, d'ouvrir un champ politique pour tous ces sujets-là, afin que, comme on est en train de l'obliger à la République démocratique du Congo de négocier avec une force négative, d'obliger aussi à ces pays-là de négocier avec une force négative et bouter hors de notre territoire de force négative. Parce que certains compatriotes de mauvaise foi profitent aussi de cette situation pour commettre leur crime funèbre et fixer ça aux forces négatives étrangères. Voilà un peu JR la contribution à l'émission d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Franklin, d'avoir appelé de Bukavu. La victoire enregistrée l'année dernière sur certains groupes actifs dans l'est de la République démocratique du Congo devaient être capitalisés. Bon, malheureusement, notre État n'a pas pu les faire et les FRDC, selon vos propos, dorment encore sur leur oreiller. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont surpris d'apprendre qu'il y a des incursions de ces gens pouvant faire aussi des cas de morts. Voilà. Alors, pour vous, il faudrait vraiment qu'on puisse retravailler les services de sécurité pour surtout des renseignements afin d'être, disons, à la page et avoir les informations en temps réel. Et aussi, revoir aussi le mécanisme mis en place pour amnistier certaines personnes. Pourquoi pas renforcer aussi le mécanisme de la diplomatie, à ce que ce soit vraiment une diplomatie à distance et non une diplomatie qui subit et qui chaque fois attend qu'on puisse donner des ordres. Et aussi que dans cette diplomatie, qu'on puisse mettre un accent sur les dispositions des accords cadres d'Addis Abeba qui demandent à ce que les belligérants ou encore ceux qui sont impliqués dans la sécurité dans l'est du pays puissent aussi organiser des dialogues dans leur pays. Merci beaucoup Franklin d'avoir appelé. Pierre, vous êtes à Manono, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à notre invité, à tous les auditeurs de la radio.
Vous avez la parole, Pierre.
Merci beaucoup pour la parole, monsieur Pierre. Bon, moi, je voudrais que nous puissions comprendre un peu la situation d'une nation. Je pense qu'une nation, c'est un système dont chaque élément joue un rôle dans l'accomplissement de ce système. En d'autres termes, je voudrais dire qu'il y a une responsabilité du gouvernement et une responsabilité de la population en soi. Donc, la question de la sécurité ou de l'insécurité relève de tout Congolais quel que soit. Parce qu'il n'y a pas une sécurité pour le pouvoir et une sécurité pour l'opposition. Et quand il y a des tueries, la mort ne choisit pas si les pays appartiennent du côté pouvoir ou ceci à partir du côté opposition. Donc, moi, je voudrais, par cette occasion, appeler tous les Congolais à jouer un rôle important dans le rétablissement de la paix. Ce n'est pas une force étrangère qui viendra stabiliser la paix, à part nous-mêmes Congolais, sont concernés. Voilà un peu sa manière de
parler. Oui, Pierre, mais je crois que dans les principes, selon certains observateurs, la mission régalienne de sécuriser la société revient, en tout cas, essentiellement au pouvoir central, au pouvoir public. Et la population.
Néanmoins, la population aussi a un rôle à jouer. Parce que la population doit savoir collaborer avec celui qui le sécurise. S'il n'y a pas une collaboration, comment est-ce qu'il y aura, partage de l'information? Comment les gens vont se communiquer? Parce qu'il y a des moments où la population, par exemple, moi je suis à Manono, il y a des moments où nous apprenons quelque part. On a senti qu'il y a des makatakataka qui sont sortis. Et ils informent les militaires prennent des dispositions pour les activer. Mais s'il n'y a pas une collaboration entre la population, si la population ne prend pas sa responsabilité, ne joue pas son rôle, je ne pense pas que le gouvernement soit capable de stabiliser une nation. Ça relève aussi quelque part de la responsabilité de la population.
Oui, mais vous savez, Pierre, que l'article 202 de la Constitution, définit clairement les matières qui rentrent dans les prérogatives du pouvoir central et aussi d'autres institutions ou d'autres pouvoirs, notamment des pouvoirs locaux, la province et d'autres entités. Alors, en ce qui concerne l'article 202, les matières telles que la défense nationale, la police nationale, elles sont des compétences exclusives du pouvoir central.
C'est un discours. C'est pourquoi je dis qu'il y a une responsabilité par qui relève du gouvernement, parce que le gouvernement doit savoir comment organiser son armée, comment organiser la police, comment organiser son service de renseignement, justement pour que la paix soit stable. Mais de l'autre côté aussi, la population doit aider ce gouvernement à être stable.
Alors pour les cas d'espèce, comment vous avez réagi par rapport aux réactions des jeunes qui se sont attaqués à la Monisco par exemple, et juste après le gouverneur du Nord Kivu leur a demandé de ne pas confondre la cible par rapport à cette affaire?
Le plus grand problème qui est là, c'est qu'il y a un problème de masse d'informations. L'information dans les milieux réguliers ne circule pas normalement. Donc pour les cas présents ici, il y a un problème du fait que dans chaque résolution de conflit, la jeunesse n'a jamais été impliquée. Et ça, c'est, moi, à mon niveau, c'est le tort du gouvernement. Dans la plupart des cas, tous ceux qui font ces extractions, ce sont des jeunes. Et si vous observez bien, la majorité de ces jeunes-là n'ont pas été au banc de l'école. Ou, ils ont été au banc de l'école, mais ils n'ont pas reçu une bonne formation.
Mm-hmm.
Par conséquent, dès qu'on les excite, ils sont prêts à réagir à l'opposition
par
tout le monde.
Par l'esprit de masse. Oui.
Si je peux ainsi m'exprimer.
Mm-hmm.
C'est pourquoi, moi, je propose que le gouvernement, dans sa politique, d'impliquer la jeunesse dans les résolutions des conflits. Parce que ce sont le premier cible qu'utilisent les politiciens pour troubler l'ordre.
Mais est-ce que Pierre, est-ce que nous risquons pas de tomber dans une sorte d'officialisation d'une structure qui pourrait peut-être constituer un danger pour l'avenir de notre... Prenons les cas par exemple des Maïmaï qu'on a dû institutionnaliser aujourd'hui. Ça a quand même créé des problèmes plus tard, parce que les jeunes qui se sont en fait regroupés pour faire l'autodéfense, et finalement ils se sont dit, bon voilà, pourquoi pas nous constituer à une institution aussi, à une structure qu'on pourrait pérenniser.
Alors, en fait, c'est-à-dire, moi je ne dis pas qu'il faut officialiser ces genres d'institutions. Il y a des associations des jeunes, il y a des regroupements des jeunes qui réfléchissent néanmoins sur l'avenir de ces pays. Et ces genres d'associations peuvent être encadrés par le gouvernement. Parce qu'au moins, ils ont la rapidité du message par rapport à leur base.
Mmh.
Vous comprenez? Parce que la semaine passée, il y a eu un étudiant entre les créateurs et les milieux ici à Manon. Si vous observez bien, c'est parce que l'information n'a pas bien circulé. Il n'y a pas de jeunes militaires qui soient informés et qui puissent amener les sources d'information
dans
le plus profond.
Mmh. Oui. Merci beaucoup, Pierre.
Donc, moi, je voudrais que le gouvernement puisse
engager
ces gens d'association, ces gens de mouvement de jeunes qui militent pour l'avenir stable de ces pays.
Voilà, merci beaucoup Pierre d'avoir appelé de Valono. Nous allons prendre Kabacha qui est à Bukavu. Kabacha, bonjour.
Bonjour papa.
Vous avez la parole Kabacha.
Oui, depuis ma voix, j'ai salué la tournée du chef de l'État à l'est de la République démocratique du Congo pour réconforter le peuple merci de Beni, à qui j'ai dit mes condoléances, j'ai dit aussi mes condoléances au peuple de l'Est qui sont pris par cette guerre à répétition. Je note que depuis la réunification du pays, je viens des combats déjà gagnés par les FARDC et la MONUSCO. Mais ce qui est drôle est, toutefois, il y a de nombreuses voix qui se lèvent que ce n'est pas le moment de crier à la victoire. Mais contrairement à notre gouvernement qui est toujours à la victoire, c'est comme si ils ne veulent que convaincre la population. Et là, en tout cas, on voit que là, c'est un peu grave. C'est le cas, par exemple, du phare culturel de Goma. Et ça, je veux toujours que ce n'est pas le temps de faire la foire culturelle de Goma. Et aussi les concerts historiques de Goma, les concerts pour la paix. Alors, c'est comme si ce concert est venu relancer la guerre. Or, ce n'est pas ça. Donc, ce n'était pas le cas de crier à la victoire, parce que c'était un combat qui était gagné, mais ce n'était pas la guerre qui était gagnée. Ce sont toujours les mêmes guerres, et presque toujours les mêmes acteurs avec les mêmes objectifs. Alors, on se demande pourquoi notre gouvernement est en train toujours de crier à la victoire au moment que la guerre n'est pas encore terminée. Alors, on se demande si c'est ça l'objectif.
Oui, oui, Kabacha. Oui, Kabacha.
Oui, papa.
Oui, il faut noter que la stabilisation, c'est quand même, c'est tout un processus qui ne passe que par l'imposition de l'autorité de l'État qui est censée, au fait, sécuriser la population, les personnes et leurs biens. Donc, c'est tout un processus.
Oui. Ok, c'est ça le rôle de l'État, sécuriser la population, mais ce n'est pas l'État quand on gagne un petit combat, de dire qu'on a gagné, mais on n'a pas gagné. Nous, ici à l'Est, nous savons que le combat n'est pas déjà gagné. Nous savons très bien. Nous savons que le combat est de longue haleine, comme le disait M. Laura Désiré Kabila. Mais je me demande comment est-ce que les grands acteurs de la guerre ici ne savent pas que le combat est de longue haleine. C'est de longue haleine, on ne va pas le gagner demain. Il faut alors se préparer parce qu'on dit. Qui veut la paix prépare la guerre et qui veut aller loin ménage toujours sa monture. Alors il faut toujours ménager sa monture.
Alors comment on va ménager?
Ménager nos services de sécurité.
Mm-hmm. Oui. Donc ménager les services de sécurité et quoi encore? Oui.
Alors vous voyez que la fois passée il y a eu des troubles aussi au niveau de Kiliba. Le gouvernement disait qu'il n'y a pas de militaires burundais, mais à la fin des comptes les militaires burundais étaient sortis de leur cachette. Il y a aussi le problème de la mer au niveau de Goma. À Goma, la mer s'était transformée en des pharmacies, c'est le cas aussi à Bukavu. La mer se transforme en secteur de pharmacie, en grand dame de services de santé et au grand dame de services de culture et parce que les gens qui font des photocopies sont tracassés par ces gens-là, et les gens qui font les photographes sont. Alors je me demande si c'est ça l'erreur de l'année, il faut qu'on puisse vraiment et recadrer le tir. Parce qu'on fait le service de sécurité, il faut faire le service de l'armée.
Merci beaucoup, Kabacha. Voilà, nous revenons à vous, professeur Bouba Kalala. Nous avons suivi en tout cas cette série des auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces interventions?
Bon, je crois qu'il y a l'intervention de Franklin de Bukavu qui a soulevé quand même beaucoup de questions. Comme vous dites là, les efforts de l'armée. Et je vois par exemple le point d'amnistie à répétition et qu'il faut faire justice, etc. Donc je crois que par rapport à ce qu'il soulève, je crois que c'est quand même un problème par rapport à notre pays. Nous traversons une période très particulière avec notre histoire récente où nous avons connu des rébellions, où le gouvernement a rétabli l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, dans un contexte où on a besoin de consolider l'unité nationale. Et donc tout ça, ça demande des autorités au niveau national d'agir avec beaucoup de sagesse. Et donc lorsque, par exemple, on prend des mesures d'amnistie, souvent aussi, c'est pour faire la paix avec une partie des Congolais qui crient vers les autorités nationales pour qu'on fasse un geste. et dont les autorités nationales sont souvent obligées
pour finalement conserver son pouvoir, on dit on fait avec, on fait
voilà, avec autres, voilà. Non, ils sont obligés de faire parfois des gestes que parfois la population ne comprend pas, hein, des gestes pour faire tomber la tension dans la population, faire consolider l'unité nationale. Parfois, il faut faire des gestes dans ce sens-là, parce que c'est souvent aussi demandé par l'opposition.
Même la communauté internationale.
Parce qu'on dit aussi, hein, dans ce qu'il dit aussi, la communauté nationale, il ne faut pas qu'il obéisse.
La diplomatie,
parce qu'il parle aussi de la communauté internationale, qui fait pression, il ne faut pas toujours obéir, etc. Je crois que c'est aussi tout ça, appartenir à une communauté internationale, c'est aussi tenir compte des demandes qui viennent des autres pays, de ceux qui nous regardent de loin. Mmh. Alors l'État congolais est obligé de faire
un profil bas.
Rapport à ses partenaires qui viennent avec des demandes, qui viennent avec certaines questions. Et donc, je voulais simplement l'inviter à tenir compte de cela. Donc nous sommes un pays qui sortons de la guerre,
un pays post-conflit,
pays post-conflit, avec ses réalités. Et donc, parfois, les autorités nationales sont obligées de poser certains actes.
De faire des concessions.
De faire des concessions pour sauver
pour amener la paix. La paix.
Pour amener la paix, consolider la paix et sauver les sanctuaires. Donc, là, dans les détails, on regarde dans tout ça, nous pouvons faire ça pourvu que nous puissions sauvegarder l'unité nationale, etc. Oh, par rapport, vous avez la population qui trouve que ça c'est trop d'amnistie, on pardonne trop, ainsi de suite. C'est pas tellement le pardon, mais c'est aussi c'est jouer certaines, respecter certaines règles pour que tous les Congolais se sentent.
Alors, Pierre a parlé de responsabilité partagée entre le gouvernement et la population. Pierre Demanono.
Oui, évidemment, chaque Congolais est invité à collaborer avec nos services, le service de renseignement, avec la police. Lorsque vous constatez, vous apprenez qu'il y a quelque chose, on demande toujours aux citoyens de pouvoir communiquer, de pouvoir partager. Parfois, c'est pas toujours évident, parce que nous n'avons pas encore réussi à installer les numéros verts qui permettent à tout celui qui veut parler à la police, à nos services de police par exemple, de le faire facilement.
Mais l'idéal, c'est que c'est les pouvoirs publics qui, en fait, a cette mission régalienne de pouvoir sécuriser la population. Et la population se sentant sécurisée, c'est en ce moment-là qu'ils participent.
Exact. Ça veut dire, non, c'est aussi un problème de culture. Vous savez, c'est un problème de culture. Il y a des pays, vous allez en Europe parfois, quand les gens observent, ils sont dans leur maison, à l'étage, ils assistent à un fait comme ça, quelqu'un qui brutalise quelqu'un ou qui veut voler les biens de quelqu'un.
Il signale la police.
Il signale la police, il collabore avec la police et la police intervient. Donc la police n'est pas dans tous les coins. C'est aussi la collaboration des citoyens. Chez nous aussi, on attend des citoyens qui fassent là. Mais malheureusement, parfois, les citoyens n'ont pas toujours les numéros.
Mais la situation, elle est dans l'est du pays, elle est un peu compliquée parce que, finalement, cette partie a une histoire avec les guerres, a une histoire avec l'insécurité, a une histoire. Donc, c'est pas à comparer avec, en tout cas, la partie ouest du pays. Et il y a un peu de particularité. Aujourd'hui, c'est vrai, faire participer la population, vraiment, c'est exposer cette population parce que, c'est vrai, nous avons assisté à une certaine époque avec des conflits ethniques, déjà, pour avoir la cohésion nationale, c'est tout un problème. Et de son quoi, donc, ce serait difficile d'établir réellement la cohésion nationale et qui, bon voilà, comme qui aura comme un pays domino, difficulté d'établir aussi l'autorité de l'État.
Oui, mais disons, l'Est a eu le malheur de connaître toutes ces guerres et donc d'avoir aussi des armes en circulation. Ça, c'est le plus grand danger, à mon avis, qui constitue et les premières menaces à l'Est.
Il faut vraiment un assainissement.
Voilà, il y a ces armes-là qui circulent entre des mains irresponsables. Et ce sont ces gens d'irresponsables qui parfois montent des atrocités comme nous sommes en train de les déplorer là. Et donc là, c'est une particularité de cette partie du territoire national. Mais les habitants de l'Est doivent toujours être soutenus dans leurs efforts pour que ces habitants-là aussi vivent dans la paix, comme ceux qui sont ailleurs. Et donc nos services de renseignement, nos services de police doivent toujours faire leur travail dans des conditions souvent très difficiles, parce qu'à l'Est, même les services de police parfois sont menacés par des bandits armés. Et donc travailler de ce côté-là, c'est très délicat, ça demande beaucoup de sacrifices et de détermination. Alors, la collaboration de la population est très attendue aussi. Si la population peut signaler des situations, si la population peut alerter les autorités locales, politico-administratives, de fait, surtout aussi de la police de proximité, la police qui est censée être proche de la population, la police peut aussi s'organiser pour neutraliser certaines situations. Donc, c'est une invitation qui est lancée à tout le monde de pouvoir aider les autorités à mieux servir la population. Donc la population, qui est nombreuse, qui est un peu partout, peut collaborer. C'est comme ça que l'idée, n'est-ce pas, des numéros verts, c'est une idée importante. Et je crois qu'une fois, une des compagnies de télécommunications ici, sur place, a eu l'idée de pouvoir collaborer avec la police dans certaines villes. Je crois que c'est encouragé. C'est leur façon aussi d'aider.
C'est des initiatives à multiplier.
Voilà.
C'est que tout le monde, les communautés dont participe un peu à la sécurisation.
Voilà. Que tout le monde aide, c'est ces numéros. C'est quand on appelle ces numéros, ça tombe à la police.
081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous nous excuserez. Nous avons des petits soucis avec nos lignes téléphonique, surtout qu'il a plu abondamment après hier à Kinshasa, ça perturbe un peu certaines lignes, et puis bon, nous avons du mal. Il y a certaines personnes qui nous appellent, hein, des fois on a difficile à les avoir hein, sur nos lignes, mais quand cela détienne, on voit quand même, il y a une autre équipe qui travaille là-dessus, et je crois qu'on pourrait accorder la parole aux uns aux autres. Alors, Aimé, Minako est à Isiro, Monsieur Nelly est à Kikwit, Dieu merci à Manon, on va vous accorder la parole dans un instant. 081-890-6315 pour votre intervention directe.
C'est parce que Radio Capuine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits fracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Longuembo.
Merci à vous, Sylvain Aguenoga, vous allez de Bounia, vous nous avez écrit, vous avez dit, c'est vraiment très honteux et regrettable pour la RDC et la communauté internationale qui viennent de fêter dernièrement à Goma One Piece pour signifier en face du monde entier, la fin de la guerre et tuerie au Kivu, en particulier à l'est de la RDC en général. Maintenant, comment peut-on justifier encore le cas de cette tuerie à Eringeti dans les territoires de Beni Butembo, tout en faisant allusion au One Piece qui vient de fêter récemment à Goma. Shubaka Asumani Beden de Bukavu dit ceci: dans d'autres pays, quand il y a autant de morts, on décrète un deuil national, mais ce qui se passe au Nord Kivu et au Sud Kivu, à part les catastrophes naturelles, semble préoccuper aucune classe politique. Ceci prouve combien de fois nos autorités peuvent, sont un peu insensibles hein, à la souffrance de la population. Agué Manigo de Goma, je pense que le gouvernement ne devrait pas directement attribuer ces attaques aux adeptes Nalu, car ce n'est pas facile à comprendre que tous ces forfaits puissent toujours se préparer et se passer sans que nos services de sécurité ne puissent en aucun cas s'imprégner de la situation avant ou pendant les déroulements des faits. Il est ainsi à ce propos de diligenter une enquête objective afin de découvrir des vrais criminels. Donc merci à vous. Aimé Ninaku, vous êtes à Isiro. Bonjour Aimé.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
Vous aurez la parole et votre point de vue, Aimé.
Oui, j'ai juste une contribution par rapport à ce sujet. Je voulais dire ceci. Dans la RDC, il y a toutes sortes de massacres, la guerre. Et pendant ces guerres, il y a il y a violence, donc il y a tuerie, il y a toutes sortes de désordres. Et l'armée de la RDC ne travaille pas comme il faut. Pourquoi je dis cela? Pendant les temps, quelques temps que j'ai passé à Dungu, où il y a eu le massacre de la LRA, vous voyez, l'armée, les soldats nous disaient que le gouvernement n'a pas eu d'autorisation à côté de faire un problème. Vous remarquez que vraiment l'armée est corrompue. L'armée est trahie. C'est pourquoi le gouvernement doit vraiment prendre des responsabilités, de mettre en place des mesures qu'il faut pour mettre fin aux situations qui se passent à la guerre, aux violences, donc à toutes sortes de désordres qui se passent en RDC. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Aimé. Monsieur Nelly, vous êtes à Kikwit, bonjour. Nelly, vous êtes avec nous à Kikwit. Voilà, Nelly, on est déjà en direct. Je crois qu'il est en train de... Il est un peu distrait. Nelly, vous êtes avec nous? Bon, voilà, on va revenir à Nelly, hein, le temps que la réalisation nous aide un peu à rentrer en contact avec lui. Dieu merci, vous êtes à Manono. Bonjour, Dieu merci.
Bonjour, cher. Bonjour, la radio Capi.
Vous avez la parole, Dieu merci. Votre point de vue?
Oui, mon point de vue, vraiment, c'est juste... pour ces auditeurs qui condamnent l'armée congolaise. Ce n'est pas seulement le problème de l'armée congolaise. Mais on va aussi demander, nous regrettons de ce massacre, de toutes ces tueries, mais le problème qui est là, c'est la vigilance aussi de la population. On se pose des questions. Chaque fois, il y a des massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Ces gens, ces rebelles qui tuent les gens, entrent par quelle voie? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème aussi de la collaboration entre l'armée et la population. Est-ce qu'il y a une collaboration? Pourquoi ces mêmes rebelles qui tuent les civils, les innocents, se cachent dans la population? C'est pourquoi nous allons demander à nos frères, à nos amis, parce que ça nous fait mal, si même si nous sommes au Katanga, vraiment ça nous fait mal d'arriver jusqu'à ce chiffre de 24 civils innocents tués sans problème avec des rebelles. Nous demandons qu'il y ait la collaboration entre l'armée et la population du Nord Kivu. Cela, ça va permettre vraiment à l'armée de faire son travail. Pourquoi? Parce que l'armée n'est pas forte. Si elle n'est pas soutenue par la population, c'est la population qui fait découvrir, les rebelles qui fait découvrir, celui qui vient avec des mauvaises intentions, c'est les auteurs de toutes ces tueries-là. Vraiment, ça fait mal à nous tous qui sommes Congolais, ça fait très mal, très mal. Et nous demandons au gouvernement de prendre des précautions, surtout au ministère de la Défense, de prendre des précautions. L'armée congolaise a réussi à chasser le M23. Mais ça, ce n'est qu'un petit groupe, hein, c'est des rebelles qui donc un petit groupe qui peut être chassé dans un laps de temps. C'est ça, surtout ma demande du côté du gouvernement. Comment a chassé le M23 qu'on réussit aussi à chasser ces rebelles qui continuent jusque-là à tuer 24 personnes, vraiment, on parle déjà, c'est un massacre.
Oui, Dieu merci. Mais alors, comment avez-vous réagi par rapport à la réaction des jeunes de Béni qui, au fait, élevaient leur voix par rapport à cette situation? Vous condamnez en tout cas ce massacre?
Oui, c'est tout ça. Parce que moi, si ces jeunes ont condamné, moi aussi je partage cette même condamnation avec ces jeunes de Béni qui ont condamné ces genres de massacres. Pourquoi? Parce que si on doit chaque fois tuer les gens, chaque fois on doit tuer les gens, mais le gouvernement aussi doit travailler. Mais en même temps, j'appelle aussi la population à la vigilance. C'est la population qui doit aussi, aider l'armée congolaise à faire le mieux, à se souligner de bravoure. Si la population doit laisser l'armée seule, vraiment, on aboutira toujours aux échecs et on arrivera toujours vraiment une continuité des massacres. C'est pourquoi je parlais de la collaboration entre l'armée et la population. Pourquoi? Parce que la même armée, aujourd'hui, que nous sommes en train de dénigrer, que nous sommes en train de donner de mauvaises couleurs, que nous sommes en train de tenir de mauvaises images, c'est la même armée qui a aidé la République démocratique du Congo à chasser le M23. Mais pourquoi pas chasser ces rebelles qui continuent aussi à tuer? Nous demandons à la population, nous toutes population congolaise, de nous ranger derrière notre armée, mais on pourra quand même permettre à cette armée de faire le meilleur pour cette rebelle, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Dieudonné, d'avoir contribué dans cette émission. Alors, réaction, professeur Boutoukalala.
Bon, je crois que sa contribution est tout à fait appréciable, hein, donc je pense que c'est cela qui est attendu, la collaboration et l'appui aussi à nos services avec les informations, en les informant, parce que comme nous le savons, notre pays est très vaste, alors il est difficile de placer tout dans tout le coin, les militaires, les policiers, etc. Mais si la population peut aussi comprendre que en collaborant avec ses services, les rend efficaces et qu'elle peut les aider à mieux les servir, je crois que ça sera une très bonne chose, ça sera un message important que la population aide les autorités à avoir l'information pour pouvoir intervenir, sécuriser correctement la population.
Mais l'affaire, disons, les rebelles, il y a encore des poches de résistance, malgré tout le travail qui est fait, et par la communauté internationale, et par les FARDC.
Bon, là aussi, encore une fois, c'est toujours le problème de l'immensité du territoire. Nous avons toujours des gens qui ont des armes quelque part, qui insécurisent les gens, et qui n'ont pas un autre travail, qui ne veulent pas abandonner ces métiers-là pour pouvoir se convertir à autre chose. Alors, c'est à nos services de pouvoir les traquer, les neutraliser pour que l'autorité de l'État soit établie partout.
Voilà, professeur Beaubois, on va revenir encore à vous, le temps pour nous de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à ces débats en composant, bien entendu, les 081-890-6315 pour les appels en direct. Ils peuvent également poster leurs commentaires sur notre page Facebook. Il y a Rodrigue qui nous a écrit, Eloi Kasserika de Boutembo également, et Chadrach Bado d'Issiro. Nous allons découvrir vos messages dans un instant. Merci encore de votre fidélité à Radio Capi, et si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Rodrigue Sampatois de Katanga dit ceci: cette situation risque encore une fois de déstabiliser notre pays et de tenir encore une fois l'image, de carner l'image de notre État. Le gouvernement doit tout faire pour mettre fin à ces massacres, pour ne pas décourager les investisseurs qui veulent venir investir ici chez nous. Aimé qui s'irait de Boutembo, je pense bien qu'on ne peut pas accuser seulement les ADF Nalou. Il faut aussi qu'on puisse mener des enquêtes sans parti pris et on trouvera la vérité qui se cache. Donc l'utilisation des armes blanches est plus que suicidaire avec nos autorités. Il semble que cette fois-ci, les enquêtes seront prises en compte. Nous avons également la réaction d'Eloi Kasserika de Boutembo qui dit ceci: c'est que nos autorités congolaises font aujourd'hui témoignent combien de fois certaines parmi elles sont d'accord avec ces groupes actifs dans l'Est du pays. C'est pour cette raison que je dirais aux amis congolais de ne pas chercher l'aide auprès des autorités congolaises. Voilà. Et puis, Chadrach, cette tuerie démontre l'incapacité de l'instance dirigeante de contrôler l'ensemble du pays. Alors, professeur, avant de retrouver encore un auditeur, M. Lumbulumbu, qui est à Béni, alors, réaction par rapport à ces interventions, des messages qui nous sont parvenus sur notre page Facebook.
Bon, il y a effectivement le fait que lorsqu'il y a ces genres de massacres, c'est toujours une inquiétude pour la population. Donc, ça c'est très clair et c'est pour cela que nous pensons que des enquêtes sérieuses doivent être diligentées dans cette partie pour pouvoir traquer les malfaiteurs, les gens qui ont tué autant de gens. Parce que ce sont des innocents, des victimes qui ont fait l'objet de massacres. Donc, nos services de renseignement ne peuvent pas laisser des situations pareilles sans réaction, sans qu'il y ait correction. Et donc, je crois que ça, c'est très, très clair que nos services de sécurité vont se mettre à traquer ces genres de malfaiteurs. Alors, l'autre inquiétude sur l'image du pays, ça, je comprends très clairement que dans le chef de ces malfaiteurs, il y a aussi cela, essayer de narguer l'État congolais, essayer d'énerver les autorités, essayer de les défier. Et donc c'est dans ce sens-là que l'autorité ne peut pas laisser impunis ces genres de situations. Hein, c'est un peu le genre Kuluna. Donc vous avez des gens qui décident de prendre des armes, qui décident de se défier l'État, hein, de défier l'autorité publique. Alors à ce moment-là, ils viennent instaurer leur ordre dans un État où il y a un ordre public. Et donc dans ce sens-là, c'est très clair que nous encourageons les autorités politico-administratives de cette partie-là de pouvoir tout faire pour que nos services traquent ces genres de malfrats.
Merci beaucoup, professeur Bebois. On va prendre des auditeurs qui nous ont rejoints. Maître Lumbulumbu qui est à Béni et Maurice Akinshasa. Maître Lumbulumbu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, comment vous réagissez par rapport à cette affaire?
Ben, écoutez, la première chose, naturellement, c'est de condamner et de condamner pour la troisième fois le carnage dont nos frères et nos sœurs ont été victimes dans le territoire de Béni en l'espace d'un mois. À notre avis, il est inconcevable que, avant que ces gens ne puissent opérer, qu'ils puissent jeter des tracts 2-3 jours avant l'opération, sans que nos services de renseignement ne soient en mesure de pouvoir dénicher les auteurs de ces tracts et étouffer ces massacres. C'est là que nous disons que nous tenons notre gouvernement pour responsable, soit par action, soit par inaction. La deuxième chose, lorsque vous rendez que le territoire de Béni est un territoire qui est déclaré opérationnel, on présume qu'il y a le plus grand nombre possible de militaires qui y sont déployés et que ce plus grand nombre de militaires devrait être un élément de protection, ne serait-ce que sur le plan psychologique de la population. Malheureusement, les auteurs de ces massacres se sont pavanés, ils sont entrés quand ils voulaient. Quand ils voulaient aller à Maïmon, ils l'ont fait. Quand ils voulaient aller à Ngadi, ils l'ont fait. Mais Ngadi, c'est à la porte de la ville de Béni. On ne peut pas comprendre que dans une ville, dans un territoire déclaré opérationnel, près de l'aéroport de Mavivi, que les gens entrent, qu'ils les tuent, qu'ils les fassent ce qu'ils veulent, sans qu'on ait arrêté un seul, sans qu'on ait un seul indice sur celui qui peut avoir commis ces actes. Non, c'est incroyable, monsieur le journaliste. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes en train de penser que non seulement que les responsables du secteur, lorsque je vois par exemple le secteur de renseignement, ça relève du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense doivent faire l'objet d'une interpellation à l'Assemblée nationale parce qu'il est inconcevable que 80 personnes puissent être tuées comme ça, alors que nous sommes censés avoir des services déployés sur l'étendue du territoire de Béni et dans la ville de Béni. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons fait appel la fois passée à une demi-journée ville morte. Je pense que vous avez constaté que cette demi-journée ville morte a été observée sur l'étendue de toute la province de la province du Nord Kivu. C'est parce que la population voulait dire on en a marre. Et ma présence même dans la ville de Goma, c'est juste pour remettre au président de la République une lettre ouverte pour nous dire, monsieur le président de la République, la population de la ville de Béni, Butembo, Goma, demande que le gouvernement puisse prendre des mesures d'anticipation, des mesures préventives contre cette insécurité qui endeuille la population de Béni, de Butembo, de Goma et d'un peu partout, et amener le gouvernement à être plus regardant sur la situation du territoire de Béni parce que ça fait la honte du pays. Mais en même temps, il faudrait soutenir l'initiative du président Moussa Niamouchi du FCDKML qui a demandé à ce que des enquêtes, alors moi je dis des véritables enquêtes internationales et indépendantes, soient diligentées et le plus rapidement possible sur ce qui s'est passé à Béni, parce que ce qui s'est passé à Béni ne doit pas rester impuni. Les auteurs, les co-auteurs, les complices de ce carnage doivent être sévèrement sanctionnés parce qu'il ne faudrait pas que ce carnage se répète encore dans le territoire de Béni, dans la ville de Butembo, Goma, dans la province du Nord Kivu.
Merci beaucoup, Maître Lumbulumbu, de nous avoir rejoint pour contribuer dans cet échange citoyen. On va prendre également Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Bonjour, Radio Kabi.
Voilà, Maurice.
Je commence d'abord par présenter mes condoléances à toutes les familles.
Voilà, allô?
Allô, oui, vous me suivez?
Allô, c'est Maurice?
Oui, correct.
Voilà, allez-y.
Oui, bonjour. Je commence tout d'abord par présenter mes condoléances à toutes les familles dans lesquelles ces déclarations sont arrivées. Ceci est extrêmement grave et cette situation ne peut pas rester sans réponse. Mais moi, je ne peux que me retourner à l'égard de notre gouvernement. Le ministre de l'Intérieur doit absolument, avec ses services, nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce que ici, les trésors publics payent pour que les services de sécurité militaire, l'ANER et autres puissent protéger les populations. Mais cela n'arrive pas. Une chose pareille, il est impossible qu'un étranger rentre dans notre pays pour que nos services soient au courant.
Voilà, donc Maurice, vous résumez l'intervention tout à l'heure de Maître Lumbu Lumbu, qui en fait demandait qu'une enquête soit diligentée afin d'établir des responsabilités des uns et des autres donc, par rapport à cette affaire. Donc je crois que notre invité va nous éclairer également par rapport à cette position. Mogo, vous êtes à la frontière du Soudan, de la province orientale. Vous êtes avec nous, Mogo?
Oui, je suis avec vous, oui, je m'appelle de Abba.
Oui, de Abba, Abba. Voilà, rapidement, quel est votre point de vue? Allez, une minute, hein,
oui. On va faire temps. Ce sujet réveille à moi un choc que nous avions subi, au même titre que nos amis de 2007 fois, avec les éléments de la LRA. La LRA est entrée au Congo sous les yeux de nos autorités. Nous les avons hébergés depuis 2005, mais 2008, c'était la même situation à Farage, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Les éléments de la LRA n'étaient pas venus la nuit, c'était la journée, à 14h. Ils ont égorgé les gens systématiquement le jour de Noël. Alors, avant que le gouvernement puisse
lancer cette opération-là... Qu'est-ce que vous proposez, Mongo, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que ce genre d'acte ne puisse se répéter?
Je propose en fait, avant de lancer une opération donnée, il faut que le gouvernement prenne des mesures pour éviter les explosions. Non pas stopper quelque part, mais il faut aller avec les opérations jusqu'au bout au lieu de s'arrêter.
Voilà, merci beaucoup, Mogo. On va dire à vous, professeur Mogo Akalala, juste une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion?
Non, ce qu'on peut retenir, c'est que ces massacres qui sont arrivés, il est souhaitable qu'une enquête sérieuse soit diligentée et qu'on puisse traquer ces bandes armées qui viennent terroriser la population congolaise, qui viennent tuer des Congolais innocents. Et donc, qu'ils soient traqués, qu'ils soient punis, qu'ils soient déférés devant les cours et tribunaux, et qu'on ne montre pas que devant des situations comme ça, on oublie. Donc, il faut punir ces gens-là et châtier, donner un exemple de manière à décourager, n'est-ce pas, d'autres qui seraient tentés de faire ces mêmes faits.
Professeur Mogo Akalala, analyste politique, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir contribué à orienter donc l'intervention des uns et des autres dans cette émission Parole aux auditeurs. À demain.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Merci à vous tous qui avez participé à ces débats. Merci à Jean-Noël Mokondo pour la mise en onde de ce programme réalisé par Julie César Bongonda et l'émission qui nous a été présentée et coordonnée par J.R. Mugembo sous la supervision de Ben Kabamba. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien.